Question ce matin sur les migrations mondiales dont on ne cesse de constater qu'elles divisent les États et l'Europe en particulier. Je vous renvoie au dernier bisbille entre la France et l'Italie et l'Europe qui ne sait pas très bien comment prendre ce dossier à bras-le-corps. On en parle donc ce matin avec vous, Catherine Vitol de Vinden. Bonjour. Vous signez un atlas, le dernier atlas des migrations. C'est le cinquième tome qui paraît aux éditions
Autrement.
Cinquième édition, oui. Et à vos côtés, cinquième tome, cinquième édition. Cinquième édition, j'ai bien noté, d'accord. Et à vos côtés, l'historien Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
En rappelant que parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi le président du conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée, dans la capitale. Quelques questions d'actualité, si vous le voulez bien, pour commencer. Et ensuite, on va prendre un peu de champ pour rappeler l'histoire et l'évolution des migrations dans le monde et en France en particulier. L'actualité, c'était hier, à l'Élysée, Emmanuel Macron et le président du Conseil italien Giuseppe Conte se sont dit favorables à la création de centres européens dans les pays de départ des migrants qui veulent rejoindre l'Europe. En quoi, Catherine Vitol de Vinden, en quoi est-ce que ça pourrait mieux réguler les flux de migration en Europe ?
L'idée, c'est sans doute de déterminer dans les pays de départ les gens qui ont des profils de demandeurs d'asile, par exemple, ce qui permettrait de faire le tri, comme on dit en amont. On a des hotspots en Europe, on a 5 hotspots en Italie et en Grèce. Ceux d'Italie ont été très sollicités depuis l'accord qui a été conclu en 2016 entre l'Union européenne et la Turquie. Et donc, le gros des arrivants, ça a été pour l'Italie, surtout avant 2016, vous pouvez se souvenir de Mare Nostrum, mais aussi 2013 et depuis l'accord 2016. Donc, l'idée, c'est de traiter en amont les personnes qui partent surtout pour des raisons d'asile et de laisser de côté, puisqu'ils ne pourraient pas passer par ce filtrage, les demandeurs d'asile potentiels.
Mais traiter en amont, on a des embryons de tests et on voit bien que ça n'a pas marché.
Non, je pense que ça ne marchera pas, si j'ose dire, parce que beaucoup de gens partent dans des flux mixtes, ce qu'on appelle des gens qui sont à la fois cherchant du travail, mais qui sont souvent pas infondés à demander l'asile, et ils partent donc clandestinement.
Le système des quotas de migrants n'est pas satisfaisant, a dit hier Emmanuel Macron. On peut rappeler comment marche ce système de quotas en Europe ?
Alors, c'est des quotas de réinstallation. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, avec la crise de l'arrivée des Syriens, beaucoup de nouveaux arrivants sont arrivés en Grèce, notamment, et puis dans les Balkans, plus généralement. Et l'idée de M. Juncker, le président de la Commission européenne, ça a été de se partager entre les pays européens en fonction de la population de chaque État européen, les nouveaux arrivants. Sauf que l'Allemagne avait déjà dit qu'elle accueillait 800 000 nouveaux arrivants. En fait, elle a eu 1 million d'arrivants en 2015. Et pour les autres, il y avait des chiffres qui avaient été fixés. Sauf que beaucoup de gens ne veulent pas aller dans les pays qu'on leur propose. En France, on a eu beaucoup moins de volontaires pour venir en France que prévu, par exemple. De ce fait, on a eu peu de monde, beaucoup moins que les 24 000 personnes qui étaient prévues en 2015, quand M. Juncker avait fait son annonce.
J'ai lu aussi dans votre atlas que si les hommes et les femmes ne bougeaient plus, les lignes de fracture dans le monde seraient beaucoup plus profondes, c'est-à-dire ?
Tout à fait, enfin, je ne suis pas la seule à le dire. Un de mes collègues, Bertrand Badie, insiste beaucoup aussi sur cette idée, c'est-à-dire que la mobilité, c'est une façon de limiter les grandes lignes de fracture économique. Les gens viennent pour travailler, ils renvoient des fonds de 460 milliards de dollars l'année dernière dans leur pays d'origine, par exemple, et puis ça permet une certaine souplesse. Si on enferme des gens jeunes dans des régimes très autoritaires, sans travail, on a une violence à nos portes qui est colossale. Ne serait-ce que pour notre propre intérêt, il faut que les gens circulent.
Benjamin Stora, une question sur le champ lexical. Quelle acception donnez-vous au mot « migrant » aujourd'hui ?
Alors c'est un mot valise parce qu'effectivement on a beaucoup utilisé d'autres mots, comme le mot « étranger » d'abord pendant très longtemps.
Travailleur immigré.
Ensuite, le mot de « travailleur immigré », l'immigration, c'est l'immigration de travail, c'est la classe ouvrière en particulier. On le sait, hein, notamment tout au long du XXe siècle, les immigrations ouvrières, polonaises, italiennes, espagnoles, portugaises, et puis plus récemment, bien sûr, à partir des années 60, on a beaucoup parlé des immigrés en rapport avec précisément les immigrés algériens. algériens en France. C'était un mot aussi intermédiaire qui permettait de, disons, de se situer à mi-chemin entre ce qui était en fait les anciennes colonies.
Hein, c'est
qui
ça
était
qui a
ni
changé.
Français, ni étranger. Donc on a trouvé ce mot d'immigré qui fait sa grande apparition dans les années 60, appliqué essentiellement d'ailleurs à ce qu'on a appelé l'immigration postcoloniale dans les années 60, 70, 80, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc. Et puis ensuite, eh bien, dans les années 2000, il y a eu, comme vous le savez, la crise de ce qu'on a appelé, entre guillemets, la crise migratoire. Et là, le mot de migrant est venu parce que c'est un mot qui permettait à la fois de caractériser ceux qui venaient pour travailler, ceux qui fuyaient les persécutions, et puis ça a désigné essentiellement, à partir des années 2011-2013, essentiellement ceux qu'on pourrait, que j'ai appelé les damnés de la mer, en fait, fondamentalement, ceux qui étaient dans une espèce d'errance dans l'entre-deux, c'est-à-dire entre les pays de départ et les pays d'accueil, qui d'ailleurs ne les accueillent pas toujours, bien sûr, on y reviendra. Donc il y avait cette sorte d'entre-deux permanent, et c'est dans l'errance et que progressivement ce mot eh bien, s'est imposé, qui ne se renvoyait pas systématiquement au travail, ou à la persécution, ou à la fuite politique, mais plus, disons, à la circulation.
Vous faites référence aux années 2000, on va citer l'année 2005 avec cette loi civilisatrice de la France qui vantait le caractère positif de la colonisation. Ça concernait surtout la mémoire de la guerre d'Algérie. Cette phrase a marqué les esprits, qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Vous parlez là de la loi de 2005.
La loi de 2005.
L'article 4 a été abrogé par le président Chirac.
Ça a eu quelles conséquences dans la perception ? Ça a induit quel signe ?
Ça induit le fait qu'on a lié, surtout à cette époque-là, à mon avis, la question de l'immigration à l'histoire de la colonisation. Et on a beaucoup, ces derniers temps, lié l'histoire de l'immigration à celle de la colonisation, alors que l'immigration n'est pas réductible à l'histoire de la colonisation. Catherine Vitold de Vanden le sait mieux que moi. Il est bien évident que l'immigration, c'est autre chose. Mais néanmoins, eh bien, la question de l'immigration, progressivement, a été ramenée, rapportée aux immigrations postcoloniales, c'est-à-dire les immigrations du Sud, fondamentalement, hein, c'est-à-dire les immigrations venant d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et c'est de cette manière-là qu'on a lié ces deux concepts.
Et on va voir tout à l'heure dans un deuxième aspect de l'interview que l'axe Nord-Sud aujourd'hui n'a plus cours et que c'est un peu sur tous les registres. Cette migration aujourd'hui, vous l'écrivez encore dans cet atlas, Catherine Vitold de Vanden, elle ne concerne que 3,5% de la population mondiale. Et c'est devenu pourtant l'un des grands enjeux de la planète. Finalement, qu'est-ce qui est en jeu derrière cette question ?
Beaucoup de choses. D'une part, le fait que les gens bougent de plus en plus. Depuis les années 90, on a une généralisation de la possibilité d'avoir un passeport. Une sorte de généralisation du droit de sortie. On a eu la chute du rideau de fer, l'ouverture de la Chine, beaucoup de pays du Sud qui ont commencé à délivrer des passeports. Donc il y a une sorte de droit de sortie généralisé.
Je fais une parenthèse, il y a certes les passeports, mais il y a aussi les visas qui limitent.
Oui, alors justement, cette généralisation du droit de sortie s'est accompagnée, c'est toute la crise, du durcissement du droit d'entrée, puisqu'on a le système de Schengen, notamment en Europe, 1985, avec le visa pour les non-européens. Donc on a une sorte de contradiction qui s'est inscrite dans le paysage mondial entre un droit de sortie presque général, sauf la Corée du Nord, et puis un droit d'entrée de plus en plus difficile, sécurisé, et donc ça a créé ce qu'on appelle la crise migratoire.
Catherine Vitold de Vanden, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales. Je rappelle la dernière édition de votre atlas des migrations qui est paru aux éditions Autrement. Ça s'appelle Atlas, donc des migrations. Et Benjamin Stora, président du conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration. Tiens, je signale votre dernier livre, il a pour titre 50 ans après mai 68, le crépuscule de la gauche. Vous êtes déjà venu en parler sur France Inter. Question. Non, pardon ?
68 et après, les héritages égarés aux éditions Stock.
Eh bien, vous faites bien de le préciser. on va reprendre cette interview dans quelques minutes après la revue de presse de Frédéric Pommier. Il y aura aussi Patricia Martin, il y aura aussi les questions des auditeurs. Vous nous appelez les auditeurs, c'est au 01 45 24 7000. C'est le thème de la matinale à 8h42, les migrations internationales, l'équilibre mondial qui reste à inventer. On en parle donc ce matin avec Catherine Vitold de Vanden, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des migrations internationales. vous publiez aux éditions Autrement la 5e édition d'Atlas des migrations. Invité également l'historien Benjamin Stora, président du Conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration. Catherine Vitol de Vintaine, vous le rappelez en sous-titre de votre atlas des migrations, il reste donc un équilibre mondial à inventer, c'est un euphémisme, et vous plaidez pour une gouvernance mondiale de l'immigration, là où nous on ne parle que d'une gouvernance européenne. Pourquoi internationale d'abord ?
Parce que c'est un projet en réalité qui est à l'agenda international. Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, avait commencé à mettre en œuvre ce qu'il a appelé le Forum mondial migration et développement qui a ouvert ses portes pour la première fois à Bruxelles en 2007, qui se réunit chaque année. Et l'idée, c'est de mettre autour de la table, dans le multilatéralisme dont il était friand, il l'est toujours, non seulement les États du Nord et du Sud, mais aussi toute une série d'acteurs, les associations, les syndicats, les grandes ONG, les organisations non gouvernementales, toute une série de gens qui ont un intérêt, parfois d'ailleurs contradictoire avec leurs voisins, sur les thématiques migratoires, pour essayer d'arriver à l'élaboration de normes internationales qui s'imposeraient aux États et éviter les effets secondaires de décisions qui n'ont rien à voir avec les migrations, comme le fait d'être allé en Afghanistan ou en Irak, mais qui ont un impact migratoire considérable. Donc ça, c'est un élément important puisque chaque année, on débat d'une thématique différente et nouvelle dans ces forums. Et avec cette initiative, on va avoir dans la suite, si j'ose dire, la décision de l'ONU de 2016, le pacte mondial migration et réfugiés qui a été décidé par l'Assemblée générale des Nations unies en 2016 suite à la crise, ce qu'on a appelé la crise migratoire, et avec un texte qui va être finalisé bientôt et qui sera présenté en décembre 2018 à Marrakech.
Vous parlez de l'ONU, il faut aussi rappeler le programme de 2009 qui rappelle que la migration est un droit mondial.
Tout à fait. Non seulement, effectivement, il y a ça, il y a l'idée que... un bien public mondial, c'est l'idée aussi de Kofi Annan, que ce soit un phénomène gagnant pour le migrant, gagnant par le pays de départ et pour le pays d'origine, et que le droit de migrer, le droit à la mobilité, soit moins inégal qu'il ne l'est dans le monde.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'un certain nombre de migrants ne veulent pas venir en France. C'est une question d'accueil, d'intégration, de culture.
C'est surtout une question de zone d'influence. On a eu avec la crise syrienne beaucoup de gens qui venaient du Proche-Orient. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas nécessairement des francophones. Beaucoup de Syriens ont des liens, y compris familiaux, avec la migration turque en Europe, qui est la plus importante d'ailleurs en termes de chiffres. Et pour eux, la destination essentielle, c'est l'Allemagne. Beaucoup de Syriens dans le passé ont été accueillis comme réfugiés dans l'Europe du Nord. Donc les deux destinations phares, c'était l'Allemagne et la Suède, par exemple. Et donc, la France venait derrière en deuxième ou troisième position. Et puis, le Royaume-Uni est quand même une destination phare pour tous les anglophones du Moyen-Orient, notamment les Afghans.
45 24 7000, c'est le numéro de téléphone pour poser des questions à nos invités ce matin. Robin est en ligne. Bonjour, Robin.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous entend. On ne vous entend pas très bien. On va régler ça tout de suite. Voilà, quelle est votre question ?
Alors bonjour, ma question en fait c'était de savoir à travers l'histoire quelles étaient les principales causes migratoires, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des modifications politiques, voilà, on va parler par exemple de benchmarking, lorsqu'on fuit un pays en guerre et on va transformer ça en migration économique. Est-ce que, voilà, quelles sont à travers l'histoire les principales causes de migration
aujourd'hui? On ne vous entend pas très bien.
Et j'ajouterais à ça, Éric Delvaux, une question pour Benjamin Stora, c'est qu'aujourd'hui, tout est faussé, on a l'impression, pour des questions politiciennes, des questions intérieures. Est-ce que ça, c'est nouveau, puisque chaque pays doit faire face à des problématiques intérieures, à une opinion publique?
Non, bien sûr, ce ne sont pas des questions nouvelles, et les étrangers ont toujours servi de bouc émissaire. Par rapport, disons, à la politique conduite par les gouvernements, lorsque ça va mal, surtout sur le plan économique. Bien entendu, ce sont les étrangers qui sont les principaux responsables. Et donc, on va expliquer qu'on va combattre, entre guillemets, les montées des extrêmes en endossant la politique des extrêmes. Ce qui est classique, dans le fond, dans l'histoire. Et si on veut bien aussi élargir le point de vue historique par rapport à le drame de l'Aquarius aujourd'hui, on a quand même des précédents historiques avec le Saint-Louis, qui est un bateau en mai 1939, avec 900 juifs à son bord, qui avait quitté Hambourg après la nuit de cristal pour fuir l'horreur nazie et qui, ce bateau, a erré dans les mers en direction de Cuba, puis en direction de la Floride. Personne ne voulait les accueillir, ça a été un drame absolument épouvantable. Puis ensuite, ils sont revenus en Europe, donc vous voyez le trajet absolument incroyable que ce navire a accompli. Et puis ensuite, ils ont été débarqués à Anvers. Et bon, après, la suite est malheureusement aussi connue. Beaucoup d'entre eux vont ensuite être raflés, finir dans les camps de la mort. Mais on a, à travers cette histoire du Saint-Louis, une histoire absolument terrible qui nous ramène, bien sûr, sans faire d'analogie historique, sans faire d'anachronisme, mais qui nous réveille quand même ce type de souvenir avec d'autres exemples. Il y a aussi un exemple peu connu d'un navire au large du port d'Oran, en 1939, de réfugiés espagnols qui quittaient à la suite de la défaite de la République d'Espagne, parce qu'on connaît beaucoup les Espagnols qui ont franchi les Pyrénées, mais on ne sait pas que des dizaines de milliers d'Espagnols ont franchi le détroit de Gibraltar, notamment à partir d'Alicante, pour essayer d'aller se réfugier en Algérie française à l'époque, et qui n'ont pas été accueillis, en particulier à cette époque-là, en 1939, ce bateau du Steinbock, je crois, qui a stationné devant le port d'Oran pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans être et sans avoir la possibilité de débarquer, il y avait 2500 réfugiés espagnols. Je cite ces deux exemples, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, on a Exodus en tête ou autre, pour dire qu'effectivement, cette question de l'errance, de la mer, du rejet de ceux qui essayent de trouver des patries d'adoption et de se faire accueillir n'est pas un phénomène nouveau. C'est malheureusement aussi, et cela nous renvoie à l'aveuglement des États ou au cynisme des États qui ont peur de leurs opinions publiques, alors que bien souvent, les opinions publiques font preuve de beaucoup de générosité. Moi, j'ai pu le constater en préparant un rapport, notamment pour la ministre de la Culture, sur la question de l'accueil des migrants. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de solidarité, en particulier venant du monde de l'éducation, sur les questions d'alphabétisation ou autres. Il faudrait entendre davantage la voix d'une certaine opinion publique et de ne pas céder à une autre opinion publique qui, elle, bien sûr, est sur une orientation de rejet ou de xénophobie.
La ministre de la Culture qui veut effectivement ouvrir les lieux de culture aux migrants. On va en reparler probablement dans un instant. À propos de la question politique, on va rappeler aussi le rôle qu'ont joué les associations dans les années 80, les associations citoyennes, et pour cause, vous-même, Benjamin Stora, avait monté cette association générique pour influencer le politique et la classe politique. Comment, d'ailleurs, avez-vous réussi, ou non, à influencer la classe politique de l'époque ?
Et générique, effectivement, a été, avec l'aide d'un autre ami à moi, à l'époque, était Driss Eliazami. C'était dans le prolongement d'une bataille politique antiraciste menée notamment par un journal qui s'appelait Baraka et Sans Frontières, où on a créé cette association, qui a d'ailleurs été l'association qui a préparé la première exposition sur l'histoire des étrangers en France à l'Arche de la Défense en 1990, sur France des libertés, France des étrangers. On est un petit peu loin maintenant de ce type de thématique. Et c'était la volonté de préserver, de garder, de conserver une trace de la mémoire de l'immigration, déjà à cette époque-là, qui ont existé dans la société française. C'est-à-dire comment, en fait, les immigrés ont participé à la fabrication de la France. Et c'était ça, un peu, l'objectif de générique, bien entendu, à partir de 87. Ça n'a pas été facile à faire accepter, mais on le sait plus tard. Et dans la lignée, dans la suite, dans la continuité de générique, il y a eu le Musée National de l'Histoire de l'Immigration.
Et puis, vous le rappelez aussi dans cet atlas des migrations, Catherine Vitol de Vinden, la migration, c'était aussi une migration des cerveaux. Ça fait un chapitre dans votre livre. Benjamin Stora, vous vous êtes vu confier donc par la ministre de la Culture une mission pour favoriser l'accès des migrants aux arts et à la culture. Vous devez rendre vos propositions très prochainement, je crois, avant juillet. Qu'est-ce qui leur sortira ?
Ah ben, d'abord,
je sais bien que vous allez réserver les conclusions à la ministre, mais l'esprit...
C'est toujours la même histoire, naturellement, dans les médias. C'est donné avant qu'on puisse remettre le rapport, bien
l'état
sûr.
D'esprit.
Non, mais l'état d'esprit, c'est effectivement ce que je disais déjà, c'est-à-dire la découverte, enfin, de l'existence de véritables réseaux de solidarité, notamment dans le monde de la culture, qui sont beaucoup engagés en faveur des migrants. Ça, il faut le faire connaître, parce que c'est des choses qui sont peu connues dans la France d'aujourd'hui, une France hospitalière. On a beaucoup parlé de la France qui rejette, mais on doit parler aussi de la France qui accueille. C'est un des objectifs de ce rapport. Puis un autre objectif, bien sûr, c'est d'intensifier les cours de français, parce que c'est fondamental. La culture, l'accès à la culture pour ceux qui sont des étrangers en France, posséder les codes d'entrée dans la société française passe par la langue. Et donc l'apprentissage de la langue française est tout à fait décisif. Donc pour moi, il y a ces deux aspects. Puis la grande bataille qu'on doit mener aussi dans les médias, dans l'audiovisuel, dans la presse, etc., pour tenter aussi de contrecarrer, inverser ou combattre les stéréotypes négatif qui existe sur les réfugiés. Ça aussi, c'est une immense bataille.
Eh bien, merci à tous les deux d'être venus le dire ce matin sur France Inter. Catherine Vitol de Vinden, je rappelle votre atlas des migrations, 5e édition pour un équilibre mondial qui reste à inventer. Et Benjamin Stora, je laisse vous citer votre dernier ouvrage.
Dans le titre est 68 et après, Les héritages égarés, voilà. Édition Stock.
Eh bien, c'est bien dit. Merci beaucoup et bonne journée.